les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie reçoit aujourd'hui pour un nouveau mot du protestantisme Éric Denimal. Éric Denimal, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes journaliste, conférencier, pasteur, donc beaucoup de casquettes.
Oui.
Vous avez fait des études en théologie protestante, vous avez animé aussi des émissions dans le cadre de Radio Évangile. Vous vous êtes ensuite consacré à la relation humaine, à la réinsertion de personnes en difficulté, c'était
oui,
dans le Nord.
Oui.
Pasteur, vous avez été chargé de la communication de l'Alliance évangélique française. Ensuite, vous avez travaillé pour le christianisme au XXe siècle, donc en tant que rédacteur en chef de cet hebdomadaire. Travaillé dans l'édition, aux éditions LLB, la Ligue pour la lecture de la Bible. Et tout dernièrement, les éditions First ont publié votre ouvrage « La Bible pour les nuls ».
Oui.
Donc là, aujourd'hui, vous nous parlez d'un mot assez difficile d'accès. Vous allez nous ouvrir tous les accès à ce mot, le mot « professant » ou le mot de « confessant » pour établir à l'opposé de ce mot, le mot « fondamentalisme ».
Dans le protestantisme, on aime bien à chaque fois affiner sa position. Hein. Le protestant proteste de sa foi par rapport au catholique qui peut-être protestait un petit peu moins. Là, je reviens en arrière avec le calvinisme. Et puis les protestants, je ne dis pas quand ils ont été fatigués d'être protestants, mais quand il a fallu encore affiner un petit peu parce que le protestantisme s'usait un petit peu, parce qu'il était traversé par différents courants, dont le libéralisme, dont les théologies critiques, etc. Il y avait une frange de ce protestantisme là qui était un peu plus évangélique. Alors, pendant un temps, ils ont été évangéliques. Et puis après, dans les évangéliques, il y a eu encore des courants, toutes sortes de choses, traversées par l'histoire, par des courants d'interprétation, les baptistes, les pentecôtistes, etc. On commençait à plus savoir très bien s'y retrouver. Alors on a dit, non mais alors attendez, on est protestant, ça c'est sûr, on est protestant parce qu'on tient à une histoire, mais on est aussi professant, c'est-à-dire que l'on professe et on confesse une foi. On a une confession de foi là, qui devient une règle importante. Je ne dis pas, alors le protestant se méfie toujours, la priorité c'est la parole de Dieu, c'est la seule autorité. Ce qu'on y ajoute, on s'en méfie, hein, parce que sinon on commence à entrer dans des dogmes, dans des doctrines différentes, etc. Mais en même temps, les réformateurs, par exemple, ont travaillé en disant « ben voilà ce en quoi on croit ». Et alors, il y a eu, au temps des pères de l'Église, il y a eu des credos, il y a eu le symbole des apôtres, il y a eu le symbole de Nicée, il y a eu toutes sortes de formulations pour dire « voilà comment il nous faut croire ». Nous croyons en Dieu unique, etc., en Jésus-Christ, en l'Église. Bon, on a précisé à chaque fois les choses. Et puis, peut-être à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on a commencé à parler des confessants et des professants, ceux qui confessent leur foi, c'est-à-dire qu'ils la disent, vraiment, c'est la verbaliser et c'est oser en parler, c'est ne pas se laisser piéger par la dimension privée de la foi, parce que la foi doit se vivre, pas simplement le dimanche matin ou à la maison, elle doit se vivre lorsque je suis dans l'entreprise, lorsque je suis avec mes voisins, lorsque je travaille à l'organisation de la cité ou dans celle de mon entreprise. Donc, je ne peux pas être chrétien dans un domaine et puis ne plus l'être dans un autre. Donc, il faut professer, donc profession de foi. C'est aussi essayer de mettre en accord sa foi et son projet de vie, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que moi, je me souviens d'avoir parlé avec un responsable dans une entreprise importante. Il était un des échelons et il était très embarrassé parce qu'il dit « Moi, je veux bien être chrétien, mais dans mon entreprise, là où je suis placé, je vois qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas très justes. Alors, si je revendique la justice, si je dis « là, ce n'est pas juste », au nom de ma foi, parce qu'il y a mensonge, il y a manipulation, etc., je risque de perdre ma place. Si je perds ma place, vous, pasteur, qui me dites que je dois être chrétien tous les jours de ma vie, est-ce que vous allez me retrouver du boulot ? Voilà, c'est une question. Ça, au moins, c'est pas simplement...
C'est une vraie question.
Ce sont des vraies questions qu'on entend dès le lundi matin, je dirais. Hein. Bon. Alors, comment mettre en accord sa foi, sa profession de foi, et puis sa vie ? Et sa vie au quotidien dans tous les domaines de la vie.
Sans faire de nous des marginaux.
Sans faire de nous des marginaux, ni des illuminés, ni des fondamentalistes qui vont devenir intégristes. Donc, voilà, vous voyez tous ces mots qui sont là en disant « Comment je suis fidèle au texte sans être traité d'intégriste ?» Comment je peux dire aussi au niveau théologique, comment je peux dire « Je crois ce que la Bible dit » alors qu'un certain nombre de théologiens vont dire « Oui, mais attention !» il faut contextualiser, il faut faire passer la réflexion critique, il faut savoir que, naturellement, les textes ont sans doute été un peu manipulés avec le temps, parce que nous n'avons aucun original, parce que, à chaque fois qu'on raconte une histoire, on la raconte à sa façon pour faire passer le message qu'on a envie de faire passer. C'est vrai dans nos livres d'histoire, pourquoi ce ne serait pas vrai dans le livre d'histoire des Hébreux ? Donc, on entend tout ça. Et puis, le croyant professant, confessant, qui essaie de vivre sa foi aussi authentiquement que possible, avec comme étalon la Bible, dit « Oui, mais alors, si je commence à ne plus croire le texte, à partir de quand je peux encore le croire ? À partir de quand je ne peux plus le croire ?» Est-ce que je ne vais pas m'amuser aussi à mettre de côté les choses qui ne m'arrangent pas et puis n'écouter que les choses qui m'arrangent et qui finalement ne sont pas nécessairement
c'est
difficiles.
C'est la question capitale, c'est la question primordiale,
tout, essentielle. Tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle une des choses importantes du protestantisme, entre autres, et que les confessants et les professants vont revivre ou vouloir revivre, c'est ma situation personnelle, individuelle et intime devant Dieu. Je suis responsable de ma foi. Bien sûr, j'ai besoin du symbole des Nicées, j'ai besoin du symbole des apôtres, j'ai besoin de la confession de foi de La Rochelle, mais je suis aussi responsable de ma façon de croire et de la façon dont je mets ma vie en accord, en liaison, au diapason de ma foi.
Ce n'est pas une revisitation des textes en fonction de sa foi.
Ah non, pas du tout. Le texte est toujours prioritaire et plein d'autorité.
Mais on fait dire au texte aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu ce qu'on veut.
Tout à fait. Et c'est là où il nous faut faire toujours très attention dans nos lectures et dans nos interprétations. C'est de ne pas mettre l'interprétation avec la même autorité que le texte lui-même. Parce que je peux interpréter un texte et mon interprétation est fausse, mais ce n'est pas le texte qui est faux. C'est l'interprétation que j'en fais. C'est l'instrumentalisation que j'en fais. Et là, on a besoin d'avoir énormément d'humilité et de se souvenir que ce n'est même pas mon intelligence qui est capable de décrypter ou de décoder le texte biblique, mais c'est ma foi qui est alimentée par l'Esprit de Dieu auquel je crois. Alors, tout ça, c'est naturellement un langage extrêmement spirituel, à la limite religieux. Mais si je suis confessant et professant, je crois que Dieu vient éclairer ma lecture. C'est lui qui vient éclairer ma lecture et non pas mes présupposés, mes envies, mes besoins ou les modes environnantes. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est la louange, c'est le jeûne. Alors, on va jouer autour de ces mots-là, on va jouer autour de ces piétés-là, autour de ces rituels-là et on va les mettre en exergue et on va en faire presque des dogmes. Et finalement, on va en faire des lieux de dispute et de division. Alors qu'une lecture attentive et humble, c'est un mot, je dirais, essentiel qu'il nous faut tous retrouver, en tout cas quand on est lecteur de la Bible, quand on est adorateur d'un Dieu, quel que soit le Dieu d'ailleurs, c'est de rester humble. Nous ne sommes jamais que des sujets, alors que nous nous prenons tout le temps pour des verbes.
Et ces deux mots que vous nous avez expliqués, Éric de Nimal, professant et confessant, ce sont deux mots qui s'attachent à un mouvement protestant historique particulier, ou ce sont deux mots qui sont toujours d'utilité, d'observance, aujourd'hui dans le protestantisme?
Je dirais qu'aujourd'hui, dans le protestantisme, on va retrouver des personnes qui vont se présenter ou qui vont vouloir être reçues ou considérées comme des professants et des confessants, plutôt dans la frange évangélique. Dans la frange du protestantisme historique, on va être de différentes théologies, peut-être libérales, peut-être théologie critique, enfin toutes sortes de choses. Et donc,
ces deux mots se vivent davantage chez les évangéliques, les protestants évangéliques aujourd'hui.
Alors, je ne veux pas naturellement faire des clans et décider des frontières entre les gens, parce que ce serait pas normal de ma part. Mais je pense que
c'est une attitude plus évangélique.
C'est une attitude qu'on va retrouver plus chez les évangéliques, oui. Toujours encore une fois, parce que ils vont essayer de rester le plus fidèle possible au texte, mais dans un texte reçu brut de pomme. Hein, alors que le protestant réformé, luthérien, va lui faire jouer d'autres sciences que la simple foi. Il va faire appel à la théologie, et dans la théologie, il va faire appel à différents courants. Et puis, il va faire aussi appel à d'autres choses qui sont très intéressantes.
À d'autres données scientifiques,
à d'autres données
de recherche
actuelles. Il y a une espèce de petite mode aujourd'hui qui est la lecture psychanalytique du texte. Je la trouve très intéressante, sauf qu'il ne faut pas réduire le texte à une lecture psychanalytique.
Ce peuvent être des enrichissements sans qu'il y ait réduction.
Toujours. Ce qui est intéressant avec la Bible, c'est qu'elle supporte toutes les lectures, sans les exclure, sans exclure d'autres lectures. Ça, c'est vraiment la pertinence de la Bible. Et à chaque fois que l'on enferme la Bible, le texte biblique, l'Évangile, à chaque fois qu'on enferme ces textes-là dans une lecture, on dénature complètement le texte. On dénature même la foi. Ce n'est plus une foi juste parce qu'elle est dénaturée. Et du coup, on empêche le texte de dire tout ce qu'il a à dire dans toutes les lectures possibles qui s'additionnent, qui ne se retranchent pas. Alors, il y en a qui sont plus importantes que d'autres à certains niveaux. Il est évident que des lectures symboliques, par exemple, vont être beaucoup plus pertinentes quand il s'agit des textes fondateurs que quand il s'agit de textes, de récits, de discours de Jésus. Alors que la symbolique, on va la retrouver dans la parabole, par exemple. Mais voilà, tout le texte dans son entièreté accepte différentes lectures et il faut avoir suffisamment d'humilité et de souplesse pour faire ces acrobaties-là.
Et nous invitons nos auditeurs à se référer à la lecture d'un texte simple, la Bible pour les nuls, par aux éditions First,
sans interprétation.
Voilà. Pour avoir le texte brut sous les yeux. Merci Éric Denimal de votre participation.
Je vous remercie aussi. À bientôt.